Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Alors là, on va prendre le TGV vers Marseille pour rendre visite à mes parents. Marseille-Saint-Charles, c'est pas encore affiché. Bon, on attend. Hein. Fatigué, hein. Ah oui, on n'a pas beaucoup dormi. Hein. On a dit au revoir à des amis hier soir lors d'un dîner. Ça, plus le déménagement, faire les cartons, trouver un transporteur le moins cher possible, ça a été une semaine bien remplie. Nous partons avec mon mari nous installer en Afrique du Sud. La vie sera beaucoup plus facile pour nous et beaucoup moins lourde administrativement, ce qui en France est encore le cas malheureusement aujourd'hui, malgré la loi sur le mariage entre personnes de même sexe qui vient d'être adoptée. Je pense que le fait de m'installer en Afrique du Sud, pour nous, ça fait sens. C'est le pays de mon mari et on peut avoir des enfants beaucoup plus facilement, des enfants qui seront protégés par la loi parce que la loi encadre la question de l'adoption par des couples homosexuels là-bas depuis des années. Donc tout fait sens. On aimerait en avoir deux ou trois, je pense. Trois, ça sera mieux.
Deux enfants.
Bon, on ne sait pas, on espère un garçon, une fille, on verra bien. Mais je pense que ça sera plutôt trois.
Marseille-Saint-Charles.
Bon, il faut qu'on y aille alors.
Ils se sont mariés le 18 février dernier à Sevran, en Seine-Saint-Denis, unis par un imam, tout ce qu'il y a de plus musulman et français. Ludovic Mohamed Zahed, fondateur du collectif citoyen des homosexuels de France, HM2F, et Kiam, un Sud-Africain, sont les premiers homos musulmans à s'être mariés religieusement et civilement en France. Au cours de la cérémonie de mariage, des prières traditionnelles chrétiennes et hébraïques ont également été prononcées, paraît-il, en l'honneur des amis juifs et catholiques des mariés. À Londres depuis près de 10 ans, rapporte Le Point, dans le quartier de la City, des musulmans homos se réunissent aussi pour prier. Aux États-Unis, les Muslim for Progressive Values sont passés en 4 ans de quelques amis à 1 millier de membres et pratiquent dans tout le pays. Des imams gays célèbrent également des mariages, ce qui n'étonnera pas ceux qui savent que l'islam, du moins sunnite, ne possède pas en réalité de clergé organisé et structuré. L'imam est simplement le savant, le sage, celui qui connaît le Coran mieux que les autres et se trouve désigné par la communauté pour diriger la prière. À l'initiative de Ludovic et de son association, soutenue par les homo-chrétiens de l'association David et Jonathan dans le Val-de-Marne en France, une mosquée gay-friendly et féministe a aussi été ouverte en 2010 dans une salle prêtée par un moine bouddhiste. Coupe en cours à l'idée que ces termes étaient incompatibles. Aujourd'hui pourtant, le jeune couple a décidé d'émigrer en Afrique du Sud pour y fonder une famille. Ludovic se rend à Marseille aujourd'hui pour faire ses adieux à sa famille, ce qui est pour nous l'occasion de revenir sur son parcours, au moins singulier, en tout cas exceptionnel, si ce n'est unique. En tout cas jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, un reportage d'Ilana Navarro réalisé par Emmanuel Geoffroy.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je suis le premier imam ouvertement homosexuel en France. J'ai grandi dans une famille d'origine algérienne. On a grandi en France. J'ai toujours étudié en France. Durant l'enfance, je pense que mes parents étaient beaucoup moins ouverts sur ces questions de genre et de sexualité et considéraient en fait que le fait d'être efféminé et un peu androgyne, on ne savait pas s'ils étaient une fille ou un garçon, posait problème. Donc ils insistaient, surtout mon père, pour que je me masculinise, que plus tard je devienne quelqu'un de bien, comme ils disaient, etc.
Ils te disaient quoi, par exemple ?
Que j'étais trop efféminé et qu'il fallait que je remédie à cela, avec des termes parfois assez durs. Mon père était énervé, quoi. Il n'arrivait pas à comprendre. Qu'est-ce qui t'arrive ? Il me disait à plusieurs reprises, je m'en souviens encore, qu'est-ce qui t'arrive ? J'étais beaucoup plus dur, à ce qui paraît, quand j'avais 3-4 ans, que plus tard, vers 10-12 ans. Et la première personne à qui j'ai dit que j'étais homosexuel, c'était ma sœur. J'avais, oui, 17 ans, donc très très peu de temps après que je l'ai compris moi-même. Je me suis rappelé tous ces rêves que j'ai eus, toutes ces relations amicales, homo-érotiques que j'ai eues durant toute l'adolescence, et ça m'est apparu clairement, j'étais homosexuel, ça posait plus de questions. Ma sœur a assez bien réagi, mes parents, j'ai attendu ensuite 1 ou 2 ans, je crois, avant de leur dire, le temps de le digérer moi-même, le temps de m'assumer, le temps d'avoir moins de problèmes par rapport à ça. J'étais aussi contaminé par le VIH-SIDA à l'âge de 19 ans, donc ça aussi, il a fallu le digérer, ça a été un autre traumatisme avec lequel il a fallu vivre. Mais bizarrement, le SIDA m'a permis de faire la part des choses, de me dire que si les gens ne m'acceptaient pas tel que j'étais, bah, c'est pas si dramatique que cela et qu'il fallait se prendre en main. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans l'associatif. Et bon, 15 ans plus tard, ça a donné la première mosquée inclusive d'Europe à Paris l'année dernière, l'association des homosexuels musulmans en 2010, des conférences, des séminaires partout en Europe et dans le monde aujourd'hui auxquels je suis invité. Bonjour,
salam. Salut.
Ça va?
Vous allez bien?
Ouais. Alors, ça faisait longtemps?
Bah oui, c'est clair.
Tout le monde va bien? Ouais,
ça fait bon voyage.
Il est où, papa? Dans le bureau?
Ça va?
Papa?
Il arrive.
Je fais un bisou?
Tonton.
Oh, merci, mes chers.
Je suis la maman à Ludovic, Mohamed Lotfi.
Ah, c'est la dame.
Il est né à Alger, il est arrivé à Paris, il avait 18 mois et jusqu'à ce jour, il est toujours à Paris. Nous, ça fait 17 ans qu'on est à Marseille. De Paris, on est venu à Marseille.
Ça vient de la chambre.
Mon mari, il était dans les affaires et moi, je suis dans le commerce. Donc, je tiens un institut, coiffure, hammam, voilà. Au départ, quand on vous dit « votre fils est gay », vous n'allez pas être gay. Vous allez être un peu angoissé au départ. Au départ, je pensais que c'était une maladie, qu'il allait en guérir, que ça n'allait pas durer longtemps. Je lui disais, oui, tu peux guérir, c'est pas possible, tu dois avoir des enfants, une vie normale. Après, j'ai compris qu'il n'y avait pas de retour. Mais j'espérais au fond de moi que ça allait basculer de l'autre côté, pendant des années. Hein. Ça fait maintenant 3-4 ans où j'ai accepté les choses. C'est difficile, mais bon, c'est comme ça et c'est pas autrement. J'ai espéré longtemps que ça change.
Qu'est-ce qui vous a fait accepter?
Mon fils. Il restera mon fils. C'est un brave garçon. Je suis heureuse qu'il soit quand même musulman, malgré tout. Je suis heureuse qu'il ramène des gens dans sa religion, quand même. Il aurait pu mal tourner, il aurait pu... Aujourd'hui, je l'accepte. J'ai beaucoup de peine, c'est normal, je pense. Mais Dieu a fait les choses comme ça, je pense. Je ne crois pas que ce soit un caprice, je crois que ça vient de là-haut. Qu'on n'a pas le choix. Peut-être qu'il a une mission, peut-être. Je le pense comme ça pour ne pas penser autrement, pour être heureuse. C'est péché dans toutes les religions, je pense. Mais moi, je ne crois plus que ce soit un péché. Je ne crois plus. Je suis pourtant musulmane, je viens de la Mecque. J'ai fait le hajj, le pèlerinage il n'y a pas longtemps. Mais je ne crois pas que ce soit un péché. J'en suis sûre. Mon fils est un musulman, pratiquant. Il se lève le matin pour faire le fajr. Il fait le ramadan, il ramène les gens à la prière, il ramène les gens à l'islam. Il est comme ça parce que Dieu a voulu. Tout le monde est au courant. Mes sœurs l'acceptent beaucoup plus facilement que les garçons. Mon fils ne l'accepte pas.
Son frère?
Oui, mon fils est né, oui. J'ai un frère que j'ai élevé comme un fils. Je l'ai perdu. On ne se parle plus. Il n'admet pas que je reçoive mon fils avec son mari. Je m'en fous. La famille, j'estime que c'est mon fils, c'est comme ça, on doit l'accepter ou le rejeter. Ben, s'il rejette, il rejette tout en bloc. Ma mère est au courant aussi. Elle dit, un jour peut-être qu'il va changer. Elle a toujours l'espoir que ça restera pas comme ça. Je crois que c'est comme ça et ça ne sera pas autrement. Sauf un miracle. Si Dieu veut, tout est si simple.
Allez, dis-moi, mamie, je t'aime. Dis-moi juste.
Maman.
Tu veux avec mamie, ma chérie?
Enchanté de vous connaître. Je suis le papa.
Quand il nous l'a dit, c'était pas un truc nouveau pour mon mari. Il savait que mon fils était homo, de toute façon.
Effectivement, j'ai décelé beaucoup plus tôt qu'elle. J'ai décelé qu'il avait une attitude, en fait. Nous, les hommes, on le ressent plus facilement que les femmes, puisque nous sommes concernés. Et donc, je voyais qu'il avait des attitudes, etc., très efféminées. Alors, vous savez, être gay dans un univers musulman, vous savez ce que ça implique comme conséquence depuis qu'on est tout jeune, mais c'est gravissime. Il reçoit des menaces. Le propre frère de ma femme est hystérique vis-à-vis de lui. En fait, je veux dire, c'est difficile. C'est pour ça que ça n'est pas un choix. Il est confronté à des difficultés depuis qu'il est tout petit. Il n'a jamais eu de petite amie à l'école. Alors, bien entendu, comme n'importe quel père élevé dans la religion musulmane stricte, j'ai essayé d'être très strict au départ. J'étais vraiment assez ferme et le mot est faible. J'ai dit, tu t'assois, je veux plus que tu marches comme une fille, je veux plus ci, je veux plus ça, espèce de femmelette. Qu'est-ce que c'est que ça? J'essayais, je me disais, je vais le réveiller un peu, je vais... En fait, je le voyais accepter ma colère, je le voyais accepter mon attitude et je voyais dans ses yeux qu'il ne m'en voulait pas. Ça m'a désarmé. Mon fils a toujours été respectueux et il ne m'a jamais affronté de face et il m'a toujours fait comprendre très en douceur les choses. Et à partir du moment où j'ai vraiment été jusqu'au bout de ce que je devais faire et que c'était la limite de tout, j'ai commencé ensuite à beaucoup réfléchir. Dans le Coran, j'ai lu, j'ai relu, j'ai essayé de trouver. Je n'ai jamais trouvé de condamnation ferme. Mon fils n'a jamais fait de mal à une mouche. Ça, c'est le principal. Le reste, on fera avec. On fera avec.
France Culture, les pieds sur terre.
Ça parle,
ma chérie? Hein? Non? Oui? Ah, d'accord. Les cheveux, qu'est-ce que c'est?
On a 4 ans de différence avec mon frère, 4 ans et demi. Mais en fait, on a toujours été très, très proches. Après l'adolescence, tous les deux, on était très, très proches. On faisait tout ensemble. On sortait ensemble. On allait au même lycée ensemble. On avait les mêmes amis, les mêmes sorties. Et j'ai été la première, en fait, à être au courant de l'homosexualité de mon frère. J'avais 14 ans quand il m'a annoncé qu'il était homosexuel. Et ça m'a perturbée, ça m'a choquée parce qu'en fait, je ne m'y attendais pas du tout. Peut-être parce qu'il venait de passer dans une phase où il a été, à sa puberté, très très religieux, un petit peu limite dans l'intégrisme, à penser qu'à ça, vivre que par ça. Et donc pour moi, oui, c'était un paradoxe. J'aurais jamais pensé qu'il puisse être autant religieux et en même temps m'annoncer qu'il est homosexuel. Pour moi, c'était un peu un non-sens. Et puis en fait, ça n'a pas été très difficile pour moi. Hein. J'ai juste eu le temps d'adaptation. Mais après, une fois que j'ai passé ce cap, pour moi, c'était naturel d'être avec lui, quoi qu'il vive, quoi qu'il fasse, et encore plus s'il était en difficulté et qu'il faisait partie d'une minorité. Donc après, Après, on était ensemble. Il a vécu sa vie d'homosexuel à mes côtés. Moi, je n'ai pas eu de soucis à vivre ça avec lui. On a passé quelques années comme ça, ensemble, peut-être 2-3 ans, à partager ça dans le secret tous les deux, avant qu'il fasse l'annonce à ma famille. Je redoutais en fait l'annonce pour ma mère. Au moment de l'annonce, j'ai été très surprise et j'ai beaucoup apprécié le fait que mon père a réuni tout le monde au moment où c'était en train de se disperser. Ma mère, elle l'a vécu vraiment comme un choc. C'était très violent pour elle. Mon frère a manifesté le fait que pour lui, c'était pas compatible avec sa conception de la vie, de la sexualité et de la vie de famille. Et en fait, mon père a recadré les choses. On est une famille, on est ensemble, on va vivre ça ensemble. De toutes les façons, je l'ai toujours su. Et ça ne me pose pas problème. Mais pour ma mère, ça a été dur de se faire à l'idée que ce serait irréversible. Je savais qu'il fallait qu'elle passe par la phase où elle allait comprendre que ce serait irréversible pour qu'on puisse avancer ensemble.
Oui, c'était irréversible jusqu'au moment où il s'est marié. Là, j'ai perdu tout espoir, mais bon. C'est vrai que pendant des années, j'ai fini par accepter mon fils, mais pendant des années, j'espérais toujours qu'il revienne en arrière. Heureusement pour lui, peut-être malheureusement pour moi, il s'est marié maintenant, c'est terminé. Je suis très contente, Riyam est très gentil, c'est un gars très bien, très correct. Il est dans la religion. Il est là, il vient pendant les vacances, on l'accepte, on le reçoit. Et maintenant, bon, ben, écoutez, il fait partie de la famille. Je suis heureuse de l'accepter en fait.
Si Kiyam n'était pas musulman, ça aurait compliqué les choses pour nous pour l'accepter. Le fait que nous soyons tous des pratiquants et tous près de l'islam, ça nous a facilité les choses pour les vivre et les accepter. Ça, c'est sûr. C'est grâce à l'islam, finalement.
Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين.
On a vécu en Algérie pendant un an quand j'avais 16 à 17 ans. Bon, c'était la guerre civile. Vous allez à la mosquée quand vous êtes jeune. Dans les années 90, la plupart des jeunes, la majorité des jeunes étaient salafistes. Donc si vous voulez vous intégrer, discuter de religion avec des jeunes de votre âge, et même d'ailleurs, même si vous n'avez pas envie, ils viennent vous trouver. Qui es-tu? Bonjour, salam alaikum, je me présente à toi, je suis le frère untel, tu es le bienvenu dans notre communauté. Et hop, c'est le premier contact, je m'en souviens très bien encore, le moment où ça s'est passé, en Algérie, dans une mosquée de quartier, le quartier de ma grand-mère. Et à l'adolescence, c'est clair, j'étais très clairement salafiste. Je respectais tous les préceptes édictés par les ulama, les savants du salafisme et... Je ne me rasais pas la barbe, je m'habillais en tunique islamique dès que je le pouvais, même en France, pour aller à la mosquée le plus régulièrement possible. J'apprenais le Coran par cœur même quand j'étais ici, non, donc j'étais salafiste. Mais très rapidement, à cause de la guerre civile, nous sommes rentrés en France. Une année plus tard, à Marseille, j'avais 17 ans. Quand j'ai découvert que j'étais homosexuel à l'âge de 17 ans, ça a été un peu plus difficile. Je me suis dit, mais c'est pas possible, parce que ces gens-là me disent que je ne suis pas normal parce que je suis homosexuel. Alors que j'ai tout fait pour être un bon musulman. Pour eux, être un bon musulman, quand on était un homme, c'était un musulman marié avec une ou plusieurs femmes. Et un musulman se devait d'être viril, masculin, parler d'une certaine façon. On me montrait même la façon de bouger, de mouvoir mes mains pour m'exprimer. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas faire casser le poignet de telle façon, il fallait plutôt occuper l'espace avec ses mains, ses bras, etc. Et c'est impressionnant, hein, mais dans la mosquée, avant la prière, on me donnait des cours aussi là-dessus. Ça fait sourire aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'époque, pour moi, c'était important. C'était pas juste la spiritualité. Et avec le recul, je me dis que la spiritualité, je l'ai découvert finalement plus tard, mais c'était surtout de l'orthopraxie totalitaire. Ça occupait tous les champs du quotidien. quand j'ai découvert que j'étais homosexuel, j'ai fui le salafisme, en fait. Parce que j'étouffais, je n'arrivais même plus à faire ma prière, en fait. J'avais des vertiges, rien qu'à l'idée de faire la prière. Ça a été vraiment un traumatisme d'essayer de concilier ce qui paraissait être un oxymore. L'islam, l'homosexualité, la sexualité de manière générale, d'ailleurs. Je pense que quand mon père a compris que ce serait soit le salafisme le plus dur, le plus viriliste, pour essayer de refouler mon homosexualité le plus loin possible, ou l'homosexualité plus conciliante vis-à-vis des traditions, des valeurs de ma famille, il s'est dit que finalement, bah, ça serait peut-être pas plus mal de m'accepter tel que j'étais, c'est-à-dire avec ma sexualité, quelle qu'elle soit, pourvu que je reste au sein de la famille, que je ne devienne pas, je ne sais pas, il s'imaginait que j'aurais pu peut-être devenir djihadiste. Alors j'ai toujours très clairement pris des positions contre ce genre de religion organisée et dogmatique. Moi, je n'y crois plus, très clairement. Si c'est ça, être musulman, je ne suis pas musulman. Je ne crois pas au pouvoir d'un clergé, je ne crois pas à la soumission aveugle à une élite religieuse, politique. Ça plaît beaucoup à mon mari, le fait que je dise que je n'y crois plus. Ce en quoi je crois, c'est en une tradition parmi tant d'autres qui nous permettent d'accéder à une forme d'illumination, de bien-être supérieur, etc. Mais on peut appeler ça Dieu, on peut appeler ça les anges, les Bouddhas, on peut appeler ça tout ce qu'on veut, ça ne me dérange pas. Il m'a fallu 10 ans pour comprendre qu'il fallait élargir cette représentation qu'on a de l'islam, qui est beaucoup trop étroite aujourd'hui en Afrique du Nord. Donc j'ai redécouvert le soufisme de mes grands-parents, de ma grand-mère, surtout qui était mon maître soufi, qui m'a appris à avoir un rapport à Dieu qui était beaucoup plus épuré, beaucoup plus naïf finalement, mais beaucoup plus solide aussi. Concilier les différents aspects de son identité. Donc tout ça, aujourd'hui, ce sont des questions qui sont beaucoup plus simples. À bientôt 40 ans, j'arrive à concilier toutes ces différentes facettes identitaires de manière beaucoup plus apaisée, sans être gêné de ne pas cadrer totalement avec le modèle stéréotypique de telle ou telle catégorie sociale.
Allez,
on y va. Bon appétit.
Bon appétit. J'allais goûter à ma chorba.
Chorba algérienne, traditionnelle. You want with the bone, hein?
Oui, please. Avec l'os.
Ludovic, toi, tu t'habilles souvent en djellaba?
Oui, très souvent, j'aime bien. Si je pouvais le faire dans la rue sans qu'on me regarde sans arrêt de haut en bas, je le ferais plus régulièrement. Mais bon, en Afrique du Sud, ça posera plus de problèmes.
Ah oui, là, en Afrique du Sud, si tu habilles comme ça, les gangsters vont respecter. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. 60% des gangsters en Afrique du Sud sont musulmans.
Bon, c'est aussi parce qu'ils ont grandi dans des quartiers, en général défavorisés. C'est toujours la même histoire. Flan, salade de fruits, yaourt. Flan au caramel, c'est ma mère qui l'a fait.
Merci.
Ça faisait longtemps que tu n'étais pas passé chez tes parents pour aussi longtemps.
Non, en fait, on vient régulièrement au moins une fois par an pour le Ramadan. Mais là, c'est vrai que c'est un peu particulier. On reste un peu plus longtemps en fin d'année parce que on n'est pas sûr de pouvoir les revoir d'ici un an, voire même peut-être deux. Je pense qu'ils viendront, mais on reviendra pas nous de sitôt, quoi. Parce que le billet coûte quand même cher. Là, je pense que dès qu'on a la confirmation de la vente définitive de l'appartement à Sevran, à côté de Paris, on donne les clés au nouveau propriétaire et on part en Afrique du Sud. Il y a un projet de centre de formation et d'accueil des réfugiés musulmans et arabo-musulmans en particulier en Afrique du Sud qui nous attend. Donc on est avec une mosquée inclusive, des salles de cours, une bibliothèque, des dortoirs... etc. Tout ça, ça nous attend, donc on est très très excités d'être là-bas. Et...
Donc en Algérie, tu n'y retournes plus du coup ?
Non, je ne retourne plus en Algérie aujourd'hui parce qu'en Algérie, l'homosexualité est condamnée à des peines de prison qui peuvent aller de 2 à 10 ans. Pour moi, c'est trop dangereux aujourd'hui d'y aller. Je ne veux pas prendre le risque.
I think we go beach when we come back, huh? Okay?
When we come back, we take it to the...
maintenant, mais on peut s'arrêter entre temps ici. C'est pas cool. On a ce projet là d'avoir des enfants dans un pays où, qui va encadrer cette grossesse pour autrui, pour nous en l'occurrence, cette GPA comme on dirait en France, et donc nos enfants seront protégés par la loi là-bas. Il y aura un fils à moi ou une fille à moi et un enfant à lui génétiquement parlant, mais ça sera nos enfants parce qu'il y aura une mère porteuse et que ce sera notre projet en commun. Donc il n'y aura pas de problème, je pense. Inch'Allah.
Est-ce que c'est halal d'adopter des enfants via une mère porteuse?
Alors moi, très clairement sur ces questions-là, parce que quand je suis imam à la mosquée, on me pose souvent ce genre de questions, je réponds, pour moi l'islam n'est pas un système idéologique fasciste et totalitaire. Donc ce qui veut dire en gros que l'islam ne s'occupe pas de sexualité, ne s'occupe pas de filiation, tant que le bien-être des individus est respecté, encouragé, sacralisé.
Super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. Put life away in a fake empire. We're half awake in a fake empire.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec un retour sur du lundi en lieu et place de celui du vendredi. Un reportage d'Ilana Navarro réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Ludovic Mohamed Zahed, à Kiam et à la famille Zahed. Depuis la première diffusion de cette émission le 19 novembre 2013, Ludovic et son mari se sont hélas séparés. Sachez-le, Ludovic est revenu vivre à Marseille près de ses parents et depuis, il a fini son doctorat en sociologie à l'EHESS et participe souvent à des conférences sur l'imam inclusif, gay-friendly, en France et à l'étranger. Sandrine Chaperon, bien sûr, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Clément Comte, c'est notre stagiaire. Les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, nous vous y attendons avec impatience. N'hésitez pas à partager nos émissions si elles vous ont intéressé ou à les commenter si vous avez des choses à nous dire.